de la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de cette édition. Finances publiques, les élus locaux à l'école de la bonne gestion à Yamoussoukro, un séminaire de la Cour de compte institution supérieure de contrôle des finances publiques s'y tient du 28 au 30 octobre 2024. Abidjan Border Forum 2024 clôture le vendredi dernier après 3 jours de débats intenses. Cette rencontre a vu la participation de 55 États membres de l'Union africaine. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron accueilli en grande pompe au Maroc par Mohamed VI pour sceller leur réconciliation. Au sport football, l'Espagnol Rodri Sacré, Ballon d'Or 2024, sa compatriote Bomati fait le doublé. Chez les femmes, Lamine Yamal, meilleur joueur. Francis Cassi passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Mata Touré, recevra le politologue sénégalais Dr Adama Sadio au centre des échanges, les enjeux des législatives qui se tiendront le 17 novembre prochain. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La Cour de compte institution supérieure de contrôle des finances publiques dans la mise en œuvre de son rôle de conseil et d'assistance à l'exécutif organise en ce moment même à Yamoussoukro un séminaire de formation de ses justiciables, notamment les élus locaux. Celui-ci vise à renforcer les capacités de ses autorités en charge de la gestion financière des collectivités territoriales et la maîtrise des règles de finances publiques locales. En ligne de Yamoussoukro, Émile Yao.
Désormais attendu, ce séminaire revêt une importance capitale, explique Kanvali Diomandé, président de la Cour des comptes.
Chaque fois que nos régions et villes accueillent une nouvelle mandature, il est essentiel que les élus, nouveaux comme réélus, s'imprègnent des principales règles de bonne gestion des finances publiques locales. Ce séminaire nous offre par conséquent l'opportunité d'apprendre les meilleures pratiques en matière de gestion financière des collectivités décentralisées, d'échanger et de partager des expériences. Les thèmes des sessions techniques ont été motivés par certains dysfonctionnements que les contrôles de la Cour ont relevés.
Ce séminaire est essentiel pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.
Il est essentiel en ce sens que cette activité vient renforcer les actions déjà initiées par mon département ministériel et moi-même pour informer, instruire et renforcer les capacités des acteurs éminemment essentiel de l'action publique, les élus locaux.
Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Mieled Kone, salue l'initiative de la Cour des comptes d'organiser ce séminaire.
La bonne gouvernance doit être partagée à tous les niveaux de responsabilité et aucune entité de gestion publique ne doit échapper à cette obligation de transparence. Ce séminaire, par conséquent, trouve à mes yeux un intérêt indéniable.
Notons qu'au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329 milliards de francs CFA. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et les syndicats des collectivités territoriales passent à l'action. Réunis en Assemblée générale à Abidjan, ils ont décidé d'observer 3 jours d'arrêt de travail du 12 au 15 novembre prochain en cause l'inapplication des mesures sociales du président de la République, notamment le calcul des indemnités de retraite. Selon Gueuvoindé Albert, membre du comité exécutif de l'UGTCI, la grève reste un moyen de pression, mais la négociation est privilégiée.
Vous savez, les collectivités ont tout le temps eu des difficultés de fonctionnement compte tenu de leur caractère hybride. Lorsque le président de la République prend une décision pour dire qu'il donne des primes de logement et qu'il y a des mesures sociales qu'il prend, on donne à tout le monde, sauf les agents des collectivités territoriales localement recrutés. Et ça, c'est choquant. Lorsque les agents partaient à la retraite, il y avait une manière de calculer leur indemnité de départ à la retraite. À notre grande surprise, il y a un papier qui circule, qui ne dit même pas d'où il vient, il n'est pas signé, mais il est imposé à tous les trésoriers, à tous les comptables de mairie pour que le calcul soit fait de telle sorte que quelqu'un qui devait aller à la retraite en 2023, on avait déjà fait les calculs pour lui donner son montant. On a dit qu'il doit avoir 10 millions. À la fin, on envoie un papier pour dire non, reprenez les calculs, il aura 3 millions. L'agent qui paye les 7 millions, il est en colère. Et c'est ce qui se passe. C'est légitime. Donc le ministre a décidé de faire comme ça se faisait avant, jusqu'à ce qu'on convienne sur un mode de calcul consensuel. Ce n'est pas encore fait et on a commencé à payer les indemnités de départ à la retraite avec le minimum, c'est-à-dire celui qui devait avoir 10 millions, on lui donne 3 millions. Voilà le vrai problème. Le ministre a décidé de recevoir les syndicats. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire, mais comme ce n'est pas encore fait, bon ben, on est dans l'incertitude, on se demande si ça sera fait ou bien ça ne sera pas fait. Ce n'était pas dans la logique des grèves qu'on voulait évoluer, mais c'était dans la logique des négociations. Je demande un peu de patience à nos syndicats nationaux.
Voilà, Gueuvoindé Albert de la plateforme des syndicats du personnel des collectivités territoriales, membre du comité exécutif de l'UGTCI en charge des collectivités. Dans le Haut-Sassandra, l'ONG Aide, Assistance et Développement communautaire mène une campagne de sensibilisation sur la révision de la liste électorale. Les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap sont particulièrement ciblées. À Daloa, Vavoie et Zilaouan, les dirigeants de la jeunesse ont déploré le faible intérêt des jeunes pour l'enrôlement et appellent à une mobilisation générale. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Mozart Kwasi, directeur exécutif de l'ONG ADCCI, a rappelé les documents nécessaires pour l'inscription sur la liste électorale.
Pour les nouveaux majeurs, le certificat de nationalité, la pièce d'identité, CENI ou le récépissé de l'ONECI. Ceux qui veulent actualiser leurs données, une attestation fiscale, le certificat de résidence délivré gratuitement pour ceux qui veulent changer de lieu, une femme qui veut porter le nom de son mari. Il faut une pièce acte de mariage, certificat ou le livret de mariage. Ceux qui n'ont pas de papier, il y a le certificat national qu'on peut établir à titre gracieux à la justice. Être candidat, être électeur, c'est un droit. Si vous voulez la paix et le développement, il faut se faire enrôler.
Les leaders de jeunesse ont à leur tour invité les jeunes et l'ensemble des populations à se procurer les documents pour leur enrôlement sur la liste électorale.
Sous-préfecture de Gadouin, les jeunes, ils veulent un candidat qui doit venir au pouvoir. S'il ne va pas voter, puis c'est plein de mains. Nous appelons tous les jeunes de se lever maintenant pour aller faire les papiers pour essayer la liste électorale.
Blé, parfait. Bébo, Sibo. Le vote, c'est pas à main levée. Il n'y a pas de l'engouement. Toute une journée pour enrôler une personne, c'est très difficile.
Alain Kakou, Niamayo. Quand vous êtes militant d'un parti, c'est dans les unes que ça se passe. Pour voter tranquillement son candidat, il faut aller se faire enrôler pour qu'on ne soit pas surpris et étonné à la dernière minute.
L'opération de révision de la liste électorale prend fin ce 10 novembre 2024. Jean-Noël Kwame, de retour de Zaliouan, Radio de la Paix.
La deuxième édition d'Abidjan Border Forum, rendez-vous panafricain des acteurs frontaliers, a refermé ses portes vendredi dernier au parc des expositions d'Abidjan. Et ce, après 3 jours de travaux qui ont abouti à la formulation de recommandations faites par les participants issus des 55 États membres de l'Union africaine en vue d'une meilleure gouvernance des frontières africaines. On en parle avec Mata Touré.
À l'endroit de l'Union africaine, les participants ont fait quelques recommandations, lui ici, par le président du comité scientifique, Ousmane Zina.
Inscrire le principe de la gestion partagée des ressources naturelles aux frontières comme un des piliers essentiels de la coopération transfrontalière. Renforcer la coordination entre l'Union africaine, les organisations sous-régionales et les États membres, notamment en matière de gestion des ressources partagées aux frontières. Exhorter tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey.
Le commissaire général de Abidjan Border Forum 2024, Diakhalidja Konaté, fait ici un bilan.
3 jours, très meublés, pleins. C'est un véritable cadre de rencontre des acteurs étatiques et non étatiques.
Le ministre de l'Intérieur, Bagondo Diomandé, a dit sa pleine satisfaction à des résultats obtenus.
De constater l'engouement suscité par ce forum traduit à n'en point douter une évolution notable de la vision de la gouvernance des frontières par les décideurs publics et une meilleure compréhension et appropriation des problématiques de la gestion des frontières.
Enfin, il a été recommandé aux structures en charge des frontières d'initier des projets de gestion intégrée des ressources naturelles à partager dans le cadre de regroupements locaux de coopération transfrontalière. Le président de la commission de paix et sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, représentant le président de la commission de l'Union africaine, a assuré que la institution panafricaine est pleinement engagée dans la gouvernance des frontières africaines et continuera à apporter son appui à Abidjan Border Forum.
Voilà autre chose dans cette édition, la coopérative agricole, la femme rurale de Nyanle. Voilà, dans le département de Sipilou, a mis en place un magasin de stockage pour les produits agricoles. En ayant accès à une infrastructure dédiée, elles pourront ainsi mieux conserver leurs récoltes et ainsi maximiser leurs efforts pour ainsi contribuer non seulement à leur développement personnel, mais aussi à la durabilité de l'agriculture locale. Stéphane Adams, notre correspondant régional, sur cet exemple de solidarité et d'initiative communautaire.
Ambiance bon enfant n'est pas fortuite à Glanleu, un village dans le département de Sipilou, selon le président du comité d'organisation, Dan Norbert.
Le cadre de la cérémonie, c'est la présentation et l'inauguration du magasin de la coopérative simplifiée agricole Glanleu. Je voudrais que cette coopérative soit un exemple dans la contrée de Glanleu. Nous sommes dans le village central. Il y a des villages associés tels que Touaba, San Pedro, Sigiple.
Ces femmes rurales en majorité œuvrant dans le domaine agricole ont construit ce magasin de stockage par fonds propres. Elles sont cependant confrontées à des difficultés. Bleu Calé Lydie en est la secrétaire.
Ici à Glanleu, nous sommes enclavés. Nous n'avons pas de route, donc on a les problèmes pour vendre nos produits. On a besoin d'un camion de ramassage de nos produits pour ne pas que les produits se gâtent en douce. Nous avons aussi besoin de bons financements pour nous aider à développer notre activité.
Le maire de Sipilou, à la remise des Diomandé Manga.
L'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes, des initiatives que nous devons encourager. Et c'est ce qui motive notre déplacement à Glanleu pour féliciter les initiatives de ce genre.
Cette coopérative agricole des femmes rurales de Glanleu compte en son sein une centaine de membres. Stéphane Adams, de retour des Sipilou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron déplace hier lundi au Maroc pour une visite d'État visant à sceller la réconciliation entre les deux pays. Après 3 ans de bruit, le montant annoncé par l'Élysée claque aux oreilles précisément. Les contrats et les investissements signés durant la visite devraient aller jusqu'à 10 milliards d'euros. Parmi les accords les plus significatifs annoncés lundi soir, c'est lui qui concerne les sociétés Alstom et Aegis pour la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de train à grande vitesse qui doit permettre de relier Tanger à Marrakech. Autre secteur stratégique, l'hydrogène vert, un accord avec Total Energy devrait atteindre 2 milliards d'euros pour développer ce domaine. Les énergies renouvelables, le solaire, sont aussi identifiés comme un secteur prometteur de collaboration entre la France et le Maroc. Au sport football, 68e cérémonie du Ballon d'Or 2024. Rodri remporte son premier Ballon d'Or et succède à Lionel Messi. Le milieu de terrain espagnol de 28 ans est récompensé pour sa belle saison avec Manchester City et son sacre à l'Euro 2024 avec l'Espagne. Lamine Yamal dans l'histoire du trophée Copa. Le crack du Barça, 17 ans, devient le plus jeune joueur à soulever le trophée Copa. Emiliano Martinez, le gardien argentin d'Aston Villa, remporte le trophée du gardien de l'année pour la deuxième fois consécutive. Le club merengue est élu meilleur club de l'année 2024, le Barça meilleur club féminin. Un podium 100% Barça pour le Ballon d'Or féminin. Aitana Bonmatí a remporté le Ballon d'Or féminin devant ses partenaires du Barça, Caroline Graham Hansen et Salma Paraluelo. Voilà à présent la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour César, bonjour à tous. C'est par les préoccupations de vos journaux au sujet de l'actuelle opération de révision de la liste électorale que nous ouvrons la revue de leurs titres de ce mardi. Contrairement à la volonté de Cuibière et des journaux RHDP, RLE 2024, pourquoi le délai doit être et sera prorogé ? Annonce à ce propos le nouveau réveil. Et l'appuyant Génération Nouvelle dit... Suspicion de fraude sur la liste électorale. Pourquoi le RHDP est opposé à l'audit ? Mais l'avenir, lui, leur rétorque ceci. Inscription de présumés étrangers sur la liste électorale. Attention aux dénonciations calomnieuses. Cependant, un autre son de cloche vient de la voix originale qui, quant à l'implication des femmes dans la révision de la liste électorale, cite ainsi Dr Agnès Monnier. Rien ne doit nous échapper, absolument rien. Une autre actualité à la une de vos tabloïds de ce jour, la candidature ou pas à la présidentielle de 2025 des présidents des trois grands partis ivoiriens. Et là-dessus, pour le compte du RHDP, le patriote titre. À Oussou Jeannot, à propos de l'élection présidentielle 2025, c'est maintenant et c'est Ouattara. Au sujet du PPACI, dont le président est exclu de la liste électorale à cause d'une condamnation judiciaire, le quotidien d'Abidjan barre ainsi sa une. Le PPACI répond sèchement à Koulibaly Cubière. Aucune décision de justice ne prive Gbagbo de ses droits civiques et politiques. Ce sur quoi renchérit Soir Info titre. Face à la presse, Katinan brandit la décision de condamnation de Gbagbo. Nulle part, le juge n'a prononcé la déchéance de ses droits. Pour la candidature du président du PDCI, le nouveau réveil rapporte le député Kouna Marius face au militant PDCI RDA à Paris en ces termes. Tiamant porte les espoirs de tous les militants. Le PDCI RDA ne désavoue jamais son président. Ce qui fait écrire le sursaut. PDCI RDA, le combat à l'aveugle de Jean-Louis Billon. Son avenir politique en jeu. Finissons avec les partis politiques avec ce titre-ci de Le Nouveau Réveil quant à leur financement par l'État. PDCI RDA, 299 jours sans subvention de l'État. À présent, intéressons-nous à la gestion de l'argent public et Fraternité Matin de Cité à cet effet. Le vice-président ivoirien, gestion des finances publiques, Timoko Meliokone, aux élus locaux. La bonne gouvernance doit être partagée à tous les niveaux. Enfin, termine notre revue des titres de vos quotidiens du 29 octobre avec notre voix qui, par rapport à la tenue ou non en novembre du congrès annoncé du FPI, nous apprend. Saisine en suspension du congrès du FPI, le verdict ce matin. Merci et bonne lecture de vos journaux.
À l'instant, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Francis Kassi. À présent, l'invité de la rédaction Mata Touré soit le politologue sénégalais Dr Adama Sadio pour bien comprendre les enjeux des législatives au Sénégal dont la campagne électorale a démarré depuis le dimanche dernier pour des élections qui se tiendront le 17 novembre prochain. Entretien.
Salut Adama, bonjour. À peine 8 mois après la présidentielle, les électeurs sénégalais sont de nouveau convoqués aux urnes afin de renouveler pour 5 ans les 165 membres de l'Assemblée nationale. Alors, la scène politique observe ce qu'on peut voir comme un calme précaire. Est-ce que selon vous, c'est le calme avant la tempête?
Mais il faut noter que les élections présidentielles vont vivre beaucoup plus les tensions que les élections législatives. D'ailleurs, même le taux de participation est toujours beaucoup plus faible lorsqu'il s'agit des élections législatives. Donc, les élections législatives ne présentent pas assez d'importance en fait aux yeux des populations.
Près d'une cinquantaine de partis politiques, de coalitions de partis et d'indépendants avaient déposé leur dossier de candidature auprès de la DGE, qui, on le rappelle, est l'organe chargé des élections au Sénégal. Où en est-on aujourd'hui?
Après la DGE, il y a eu des recours qui ont été faits contre Ousmane Sonko et contre également Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar. Mmh. Et finalement, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable tous ces recours. Donc, ce sont 41 listes plutôt qui vont aller aux élections législatives. Maintenant, pour que le vote puisse passer beaucoup plus vite, mmh, je rappelle juste qu'en 2017, lors des élections législatives, où on avait 49 listes, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait sorti donc un avis, une décision qui disait tout simplement que l'électeur sénégalais peut, une fois dans le bureau de vote, au lieu de prendre toutes les listes, mm-hmm, il peut tout simplement prendre 5 listes. Comme ça, le vote va se passer beaucoup plus vite.
Traditionnellement, les électeurs sénégalais ont toujours donné au président élu la majorité confortable au Parlement, ce qui leur permet d'exécuter leur programme. Est-ce que selon vous, cette traduction serait respectée cette année?
On semble aller dans la confirmation de cette tradition, parce que déjà au sein de l'opposition, même s'il y a une intercoalition, mais il n'y a pas une unité. Donc les 40 listes de l'opposition participent à fragiliser l'opposition, et de deux aussi dans l'opposition, donc le parti qui était au pouvoir, l'APM du président Macky Sall. C'est un parti aujourd'hui où il y a deux listes majeures, la liste de Macky Sall et la liste aussi du candidat de Macky Sall à l'élection présidentielle. Mmh. Un fait qui forcément va diminuer leur force, et n'oublions pas qu'au Sénégal, que lors des élections législatives, il y a ce qu'on appelle le Gaougadou, c'est-à-dire dans les listes départementales, la liste qui aura plus d'une voix va remporter tous les sièges qui sont en jeu dans le département.
Alors, en décidant de diriger la liste de son camp pour ces élections législatives, Ousmane Sonko veut ainsi peser de tout son poids et user de son influence pour maximiser les chances de son parti. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne stratégie?
Il va sans dire qu'avec sa nouvelle opposition, s'il n'a pas la majorité, il lui sera extrêmement difficile de gouverner tranquillement. Donc les enjeux sont énormes. Pour que son gouvernement puisse réaliser la politique pour laquelle les Sénégalais ont voté massivement pour son candidat le 24 mars 2024, il lui faut nécessairement une majorité au niveau de l'Assemblée. Étant aussi le président du parti au pouvoir aujourd'hui, donc légalement et légitimement, que personne d'autre que lui, comme c'est de en plus qu'il est le Premier ministre et le chef de la majorité politique.
Alors, dernière question, de votre point de vue, quel crédit est-ce qu'il faut donner à cette ascension selon laquelle ce retour sur la scène politique de Macky Sall serait surtout motivé par une crainte possible de poursuite judiciaire?
Oui, pour moi, le retour du président Macky Sall s'explique par peut-être 4 facteurs. D'abord, il y a cette volonté d'abattre les mauvaises politiques donc de son camp. Celui qui était son candidat était en train de lui prendre les responsables de son parti politique un à un. Le second facteur, c'est qu'il pourra être majoritaire à l'Assemblée nationale avec cette intercoalition. Et s'il est majoritaire, donc il pourrait être le président de l'Assemblée nationale et par conséquent la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. Et dans ce cas-là, il pouvait même lui-même faire nommer le Premier ministre et le président sera obligé de composer avec lui s'il veut diriger tranquillement le pays. Troisièmement, il y a le statut du chef de l'opposition. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi qui détermine qui est le chef de l'opposition, le parti de l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée ou bien le candidat vaincu de l'élection présidentielle. Si toutefois on dit que c'est le parti qui arrive deuxième à l'Assemblée nationale, donc il va de soi que Macky Sall sera le chef de l'opposition. Il y a un cadre institutionnel, il y a un cadre juridique, il y a un budget financier qui est accordé au chef de l'opposition. Et le quatrième pour moi, ah oui, comme vous l'avez si bien dit, un enjeu majeur, c'est les possibles poursuites qui sont envisagées contre lui et aussi ses ministres. Si Macky Sall parvient à empêcher au parti au pouvoir d'avoir une majorité, ce serait synonyme d'empêcher toute possible poursuite contre lui et aussi contre tous ses ministres.
Sadio Adama, je vous remercie infiniment pour avoir répondu aux questions de Radio de la Paix.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, Mata Touré recevait le politologue sénégalais Dr Adama Sadio dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel de 2 titres. Finances publiques, les élus locaux à l'école de la bonne gestion à Yamoussoukro, un séminaire de la Cour de compte, institution supérieure de contrôle des finances publiques, s'y tient du 28 au 30 octobre 2024. Enfin, dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron accueilli en grande pompe au Maroc par Mohamed VI pour sceller leur réconciliation. Fin de cette édition, retour à l'actualité, 8h.